2 Corinthiens 6. Quand je pense à ce que dit Arlette, c'est marrant qu'elle interpelle Jessica en même temps. Parce que quand on parle de louange, on a du mal des fois à l'associer à la prière. Et pourtant, dans 2 Samuel ou dans un psaume où David dit « Je m'écris « Loué soit Dieu » et je suis délivré de mes ennemis ». Et c'est intéressant de penser que la louange, c'est une forme de prière dans un sens, c'est glorifier Dieu et lui, il fera le reste et lui, il répondra à nos besoins aussi. Donc 2 Corinthiens 6. Versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Et c'est les versets après qui m'intéressent plus particulièrement. « Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Et donc à partir du verset 8, il y a vraiment un énorme contraste entre deux visions complètement de ce que peut être un chrétien. On peut voir un chrétien qui a une mauvaise réputation, qui est regardé comme imposteur, qui est regardé comme un inconnu, comme mourant, comme châtié, comme attristé, comme pauvre et comme ne possédant rien. Et on a une vision qui est un peu plus optimiste à côté, d'un chrétien qui a une bonne réputation, qui est regardé comme véridique, comme connu, comme bien connu, comme vivant, comme non mis à mort, comme toujours joyeux, comme en enrichissant plusieurs et comme possédant toutes choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux choses-là, on aurait tendance presque à l'attribuer à... Moi, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ça peut être la façon dont les gens voient les chrétiens. Ils voient les chrétiens comme des gens qui ont rien de particulier, qui sont pas intéressants parce qu'ils obéissent à des lois, vous savez, ils sont pas marrants. Et quand on voit les chrétiens qui souffrent dans le monde, on peut se dire, effectivement, eux, ils sont persécutés, ils sont mis à mort, ils sont pauvres, ils ont rien. Et c'est une version pas très joyeuse. Et en même temps, on peut dire il y a des chrétiens, on peut attribuer la façon où Dieu voit les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Dieu voit les chrétiens comme toujours joyeux, comme en enrichissant plusieurs, comme possédant toutes choses. Et on a du mal, je pense, à se mettre du côté de Dieu. On voit peut-être plus facilement l'aspect négatif du chrétien, on voit qu'on est pécheur, et on pourrait faire presque le test dans l'église ici, si on demandait qui est pécheur dans notre église. Alors je le fais pas, gardez vos mains. Mais je crois qu'on aurait tendance presque tous à lever le bras, dire oui, je suis pécheur et je reconnais. C'est quelque chose finalement qu'on a bien travaillé dans l'église, hein, qu'on reconnaît facilement qu'on est pécheur. Et si je demandais la question, qui croit qu'il est saint dans l'église, qu'il est un saint? Il y a des gens qui vont lever le bras, ça se sent, ça se voit. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, moi un saint, bof quoi. Enfin, j'ai fait quand même des choses qu'il faut pas. Je suis pas toujours, m'arrive de pécher. Et pourtant, quand on lit ces deux définitions, ces deux façons de voir le chrétien, on s'identifie au pécheur, on s'identifie pas au saint. Et pourtant, Dieu nous dit qu'on est des saints, qu'on possède toutes choses, qu'on est joyeux. Et on a tellement de mal à comprendre tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, et quelle est réellement notre position dans le Seigneur. On se voit facilement pécheur, on se voit facilement avec toutes les mauvaises choses. Vous savez, je pêche encore, je suis malade, je manque de foi, je manque de ceci, je manque de cela. Et pourtant, Dieu, il a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Et la vision du chrétien qui est persécuté, qui est mis à mort, qui est triste, qui possède rien du tout, c'est celle du monde. Et celle de Dieu, celle de la foi, c'est le chrétien qui possède toute chose et pour qui tout a déjà été fait. Et ça rejoint un verset qui est un peu plus tôt, dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points, non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et on a tellement, tellement de mal à sortir un peu de notre corps, de tout ce qui est physique, matériel, et à voir beaucoup plus haut et à voir ce que Dieu a fait spirituellement, que souvent on se considère comme un chrétien. Bon, je suis un chrétien de base, je suis pas trop mauvais non plus parce que le Seigneur il m'a sauvé, mais voilà, je suis un chrétien. Alors je dis pas qu'il faut se glorifier et dire je suis un grand chrétien, j'ai fait plein de choses ou je suis plein de choses, parce que du moment où on commence à dire ça, c'est que déjà il nous manque l'humilité et il nous manque une des plus grosses choses dans la foi. Mais il faut reconnaître aussi, je pense, sans se glorifier, reconnaître ce que le Seigneur y fait et reconnaître qu'il a tout fait. Et dans nos vies, ça change beaucoup. Ça change qu'on n'est pas pauvre, qu'on a tout. Et est-ce que je vis comme si j'avais tout ? Est-ce que je vis comme si le Seigneur, il avait tout fait ? La plupart du temps, non, je me dis, le Seigneur, il a encore tout à faire en moi, je viens de me tourner vers le Seigneur, enfin... Ça fait quelques années, peut-être quelques dizaines d'années pour certains. Mais bon, le Seigneur, il travaille, il faut lui laisser du temps. Non. Dans un sens, il a tout fait, déjà. Dans un sens, il y a du travail aussi. Mais il a tout fait aussi. Et la vision qu'on doit avoir, c'est la vision de la foi, de voir ce que Dieu, il a fait, et de voir ce qui est invisible. Et c'est ça le défi pour nous, en fait. C'est de pas rester bloqué à ce qu'on peut voir dans nos vies, à ce qu'on peut constater, mais d'aller plus loin et de voir Dieu, il a fait ça et je suis réellement ça. Je suis réellement un saint. Dieu me dit que je suis saint. Et si ça colle pas vraiment à la définition qu'on en donne généralement, si ça colle pas à ce que je fais tout le temps, ça change rien. Dieu m'a dit que je suis un saint. Dieu m'a dit que je suis purifié de mes péchés aussi, que je suis plus un pécheur. Il peut m'arriver de pécher, mais je suis plus appelé pécheur par la parole de Dieu. Dieu me dit aussi que je suis glorifié avec lui, que je suis sanctifié avec lui. Il y a tout un tas de choses comme ça. Là, on va passer quelques passages. Mais il y a tout un tas de choses comme ça qu'on a tendance à pas réaliser, à pas appliquer dans nos vies. Et du coup, on a presque une vie en dessous de ce qu'on pourrait faire et on sous-estime ce que Dieu y fait dans notre vie. Et je pense que c'est aussi un travail, c'est presque comme une éducation, une discipline qu'il faut se donner. Si un enfant, toute sa vie, tout le démarrage de sa vie, et on lui dit « t'es nul, t'es bon à rien, t'es ceci, t'es cela », des choses basses, forcément qu'il va l'intégrer et il va agir en fonction de ça. Et si un chrétien, depuis le début de sa vie avec Dieu, on lui dit « ben t'es quand même encore pécheur, il y a encore du travail à faire », ben toute sa vie il va intégrer que je suis un pécheur et bon, je suis pas terrible, mais Dieu il m'aime quand même, c'est rassurant quoi. Ça fait une vie moyenne. Enfin, ça fait vraiment pas quelque chose de glorieux comme ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et Une chose qui m'épate, c'est la façon dont Paul parle aux Corinthiens, dont Paul parle aux églises. Et surtout les Corinthiens, parce que moi, ça me marque. C'est une des églises, on a l'impression, où il y avait le plus de désordre, où ça se passait le moins bien dans les lettres qu'on lit. On sent Philippiens qui est vraiment une lettre chaude, pleine d'encouragement. Éphésiens, ça travaille l'église et c'est vraiment quelque chose pour l'union de l'église et l'organisation de l'église. Et là, Corinthiens, on sent que ça tape. Et on le voit dans plein d'endroits. On voit alors dès le début, en fait, dès le premier chapitre, 1 Corinthiens 1, la première lettre qu'il envoie à l'église. Paul salue l'église. Alors, il y a quelques versets. Et à partir du verset 10, d'entrée de jeu, je vous exhorte, frères, donc 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et c'est pas juste des généralités qu'il donne à l'Église en disant « faites attention, bon, on sait jamais ». Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc il leur dit, mais vous êtes complètement divisés et vous réalisez pas qu'en fait vous avez tous été baptisés pour Christ et par Christ, et qu'il n'y a pas de division à avoir de dire, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Daniel, moi je suis pour je sais pas Michael, hop. Il n'y a pas de division à avoir. On est pour le Seigneur, on n'est pas pour quelqu'un dans l'Église. Donc c'est une des reproches qu'il fait à l'Église des Corinthiens. Au chapitre 3, il continue, il y en a dans quasiment tous les chapitres de toute façon. Au chapitre 3, il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et ça continue, chapitre 4, verset 18, j'en ai pris quelques-uns comme ça. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Il y avait des divisions, de l'orgueil. Et au chapitre 5, juste en dessous, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et dans toute la première lettre aux Corinthiens, Paul leur montre tout ce qui ne va pas dans leur église. Et pourtant, si vous lisez 1 Corinthiens, les premiers versets que j'ai sautés tout à l'heure, 1 Corinthiens 1, Paul commence sa lettre en disant « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ça me choque, parce que je me dis, il sait tout ce qui se passe dans l'Église, et il va encore leur dire, vous êtes saints, vous êtes sanctifiés, vous êtes saints par vocation. Et en fait, Dieu, il regarde pas à ce qu'on fait, parce que sinon, dès le départ, il nous aurait laissé tomber. Il regarde à ce que lui, il a fait. Et son sacrifice, il est là pour nous mettre à part. C'est ce que veut dire sanctifier. Donc, on est mis à part. Quoi qu'on fasse, c'est lui qui a fait l'œuvre, c'est lui qui nous a mis à part. Donc je suis saint, parce que Dieu a décidé que j'étais saint. Parce que je l'ai accepté dans ma vie. Et Paul, il s'adresse comme ça à l'église des Corinthiens. Alors il à d'autres églises aussi, mais là, Corinthiens, c'est vraiment marqué, parce que l'église avait beaucoup de travers, on va dire. Et dans 1 Corinthiens 6, au verset 11, alors tournez pas forcément, parce que des fois c'est que des petits versets par-ci par-là. Il leur dit, ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 6, verset 10 plutôt. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les Corinthiens, chez qui il y avait tout un tas de soucis, qui étaient loin d'être parfaits, un peu comme nous, même si on espère qu'il n'y avait quand même pas ces désordres-là dans notre Église, et ils n'y sont pas. Ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés même devant Dieu. C'est rassurant, hein ? C'est rassurant. Il les appelle après, dans d'autres versets, on ne va pas forcément tous les lire, il les appelle ses frères, ses bien-aimés, des saints, mais jamais il les appelle des pécheurs. Il leur dit qu'ils commettent des péchés, mais il ne les appelle pas des pécheurs. Et quelque chose qui m'a... Je pense que c'est un peu le point final de ce que dit Paul, c'est dans... Où est-ce qu'on était tout à l'heure ? 2 Corinthiens, alors juste 2 Corinthiens 7... 2 Corinthiens 7, verset 16, il leur dit carrément « Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. » Bah bravo, il sait tout ce qui se passe dans l'Église et il est content de pouvoir se confier en eux. Et pourtant, c'est ce que fait Dieu avec nous aussi. Ok, je sais, Hasbrook, c'est pas l'Église parfaite, il y a des choses encore à travailler et mon esprit est à l'œuvre. Mais je me réjouis de pouvoir me confier en l'Église d'Hasbrook. Et Dieu, ça lui fait plaisir de voir les choses qui avancent, de voir les choses qui sont bonnes et de voir ce que lui, il a déjà fait. Il parle aussi comme ça aux Philippiens. Et en fait, à toutes les églises, il les appelle jamais, jamais, jamais des pécheurs. C'est tout le temps à ceux qui sont saints, à mes bien-aimés, mes frères dans la foi, mes enfants dans la foi même. Dans Romains 1, verset 7. C'est juste un exemple de la façon dont il s'adresse aux églises à chaque fois. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Une autre traduction, ce serait appelé à être saint, saint par vocation. On n'est pas saint parce qu'on a fait des miracles et qu'on a été nommé saint par le pape ou par je sais pas qui, ou même par l'Église. On est saint simplement parce que Dieu nous y a appelés. Et du coup, on n'y peut rien du tout. Une fois qu'on a accepté son appel, on est saint. Aux Corinthiens aussi, il leur dit dans 2 Corinthiens, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. » Et aux Philippiens, de la même façon, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. » Alors, des fois, on aime bien se rattraper. Moi, c'est un peu comme ça. Quand j'ai lu le verset, je me suis dit, ouais, mais quand même, Paul, il est conscient d'être pécheur aussi. Il y a un verset dans la Bible où il dit qu'il est pécheur. Et on se rattrape, heureusement. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, c'est un verset assez connu. Alors, on peut commencer au verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul dit qu'il est pécheur, donc si je dis que je suis pécheur, c'est bon. Sauf que quand il parle, il dit « je suis le premier des pécheurs », c'est à traduire au passé, c'est « j'étais le premier des pécheurs ». Il dit juste avant « je rends grâce à celui qui m'a fortifié, qui m'a jugé fidèle et qui m'a établi dans le ministère ». Est-ce que vous croyez que Dieu, il prend des pécheurs, il les laisse pécheurs pour les établir dans le ministère et pour les utiliser? C'est pas possible. Dieu, il est saint, il peut pas utiliser des choses qui sont souillées, des choses qui sont sales. Il nous a rendus saints et après, il peut nous utiliser correctement. Et il dit lui-même, j'ai obtenu miséricorde. C'est pas je vais obtenir non plus. J'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et il le dit deux fois, d'ailleurs, il le dit au verset 13, il dit encore juste après ça, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple. » C'était avant, il était pécheur, et quand il a été appelé par Dieu qui lui a donné sa vie, il est devenu saint. Et on peut vraiment, vraiment pas s'appeler pécheur. On a été pécheur, ça c'est une vérité, mais on n'est plus pécheur et on est saint. Et c'est bon de le répéter. Là, je devrais presque avoir un compteur aujourd'hui, savoir combien de fois je vous le dis. Mais c'est bon de le répéter. Parce que dire je suis nul, je suis pécheur, on l'a répété des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et dire je suis saint, je pense que je peux encore le dire pas mal de fois avant la fin du culte, on n'aura pas encore rattrapé le nombre. Alors j'ai trouvé des histoires que j'aime beaucoup, qui décrivent un peu notre comportement, en fait, quand on voit l'œuvre du Seigneur. Et c'est des choses qui sont connues. La première, c'est à propos des États-Unis et de l'esclavage, qui a été aboli par le 13e amendement du 18 décembre 1865. Donc le 18 décembre, l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Combien est-ce qu'il est resté d'esclaves le 19 décembre 1865. On entend un petit peu tout dans les réponses. Il y en a qui disent ben plus aucun. Il y en a qui disent ben il y en a qui savaient pas. Alors effectivement, en réalité, il y en a beaucoup qui ont continué à vivre en tant qu'esclaves parce qu'ils connaissaient pas la vérité. Et il y en a qui ont entendu la bonne nouvelle et qui ont continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait. Ceux qui possédaient des plantations furent horrifiés par la proclamation de cette émancipation. Nous sommes ruinés. L'esclavage vient d'être aboli. Nous avons perdu la bataille et nous ne pouvons plus garder nos esclaves. Pour eux, c'était la ruine. Ils n'avaient plus d'ouvriers, plus rien. Ils étaient obligés de travailler eux-mêmes. Mais leur porte-parole en chef répondit sournoisement. Pas forcément. S'ils continuent à croire qu'ils sont toujours des esclaves, la proclamation de leur émancipation n'aura aucun effet sur leur vie quotidienne. Légalement, nous n'avons plus aucun droit sur eux, mais beaucoup l'ignorent. Arrangez-vous pour qu'ils n'apprennent jamais la vérité et vous serez toujours maître d'eux comme avant. Mais si la nouvelle se répandait malgré tout, pas de panique, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Nous ne pouvons peut-être pas éviter qu'ils entendent la vérité, mais nous avons toujours la possibilité de les tromper, tous. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le prince du mensonge. Dites-leur simplement qu'ils ont mal compris le 13e amendement. Dites-leur qu'ils vont être libérés et non pas qu'ils sont déjà libérés. La vérité qu'ils ont entendue est pour plus tard, pas pour aujourd'hui. Un jour, ils en profiteront, mais pas maintenant. Mais ils s'attendent à ce qu'on leur dise ça, ils vont pas nous croire. Alors prenez-en quelques-uns qui sont particulièrement persuasifs et qui sont convaincus d'être toujours des esclaves. Laissez-les parler à votre place. Souvenez-vous, la plupart de ces gens fraîchement émancipés sont nés esclaves et ils ont vécu toute leur vie en esclaves. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les tromper et de leur laisser croire qu'ils sont toujours des esclaves. S'ils continuent à se conduire comme tels, il ne sera pas difficile de les convaincre qu'ils doivent le rester. Ils vont garder une mentalité d'esclaves à cause de ce qu'ils font. S'ils essayent d'affirmer qu'ils ne sont plus des esclaves, murmurez-leur à l'oreille. Comment peux-tu penser que tu n'es plus un esclave avec tout ce que tu fais? Après tout, nous sommes aussi capables d'accuser les frères jour et nuit. Des années plus tard, beaucoup d'esclaves n'ont toujours pas entendu la merveilleuse nouvelle de leur émancipation, et ils continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait. Certains d'entre eux ont entendu la bonne nouvelle, mais ils l'évaluent en fonction de ce qu'ils font et pensent. Ils raisonnent ainsi. Je suis toujours esclave, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Mon expérience me dit que je ne peux pas être libre. J'ai l'impression d'être toujours le même qu'avant la proclamation. Alors ça doit certainement être vrai. Après tout, les sentiments ne mentent pas. Alors ils continuent à vivre en fonction de leurs sentiments parce qu'ils ne veulent pas être hypocrites. Un autre esclave entend la bonne nouvelle et la reçoit avec une immense joie. Il vérifie que la proclamation est véridique et découvre que le décret a été promulgué par les plus hautes autorités. Bien plus, elles ont dû payer une fortune et elles l'ont fait de leur plein gré pour que les esclaves soient libérés. La vie de l'esclave en est donc transformée. Il tient avec justesse le raisonnement suivant. Ce serait hypocrite de croire que mes sentiments et pas la vérité. Déterminé à vivre en fonction de ce qu'il sait être la vérité, il commence à faire des expériences nouvelles pour lui. Il se rend compte que son ancien maître n'a plus aucune autorité sur lui et qu'il n'est plus tenu de lui obéir. Et c'est avec joie qu'il sert celui qui l'a libéré. On peut s'identifier tellement bien à ces esclaves et se dire « Bah non, je le vois dans ma vie que c'est pas terminé, que je pêche encore, j'ai des mauvaises habitudes, j'ai des choses qui vont pas. » Et alors, est-ce que vous n'avez pas été libéré? Est-ce que tout n'a pas été déjà fait? La proclamation n'est pas déjà faite? Et alors, on croit quoi? On croit ce qui se passe, que je vois, parce que c'est concret? Ou ce que par la foi le Seigneur me dit que je t'ai libéré, j'ai payé le prix et tu n'as pu obéir à ton ancien maître? Il y a tout un tas de choses comme ça. Là, on parle de liberté, on parle de saint. Mais la Bible, elle regorge de choses qu'on n'applique quasiment jamais et qui pourtant changent toute une vie. L'esclave, quand il a compris qu'il était réellement libre, eh ben, il se sauve. Il va trouver autre chose, il va trouver un vrai travail où il sera payé, il va faire sa vie, il va se faire une nouvelle maison, il va changer d'habitude. Il y a plein de choses à faire, mais tant qu'il est esclave, il ne peut pas le découvrir. Et nous, c'est la même chose, on a l'impression de rester dans notre... de dire, ben, faut que je continue et peut-être qu'au fur et à mesure, je vais m'améliorer et c'est moi qui vais changer par mes gestes ce que le Seigneur il a fait? Certainement pas. Dans Colossiens 2, le verset 10, il est très connu. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et on l'a lu tout à l'heure aussi, vous avez tout pleinement en lui. C'est pas qu'il faut l'acquérir. C'est pas que plus tard, quand je vais aller au ciel, je vais avoir tout avec le Seigneur. J'ai déjà tout pleinement en lui. Dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui qui nous a appelés et c'est par sa gloire, par sa vertu, par ses forces à lui, par son sacrifice. Dans cette histoire, on n'a rien à faire, nous, en vrai. On n'a qu'à accepter le salut, qu'à accepter ce que le Seigneur il a fait et accepter ce qu'on est après dans le Seigneur pour qu'il puisse continuer à agir et continuer à faire ce qu'il veut. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, il y a quand même, on voit dans ce verset 5, quelque chose de continu. Le Seigneur, il a proclamé l'indépendance, il a proclamé la liberté, mais il nous demande après de faire des efforts. Ça se dit, on n'a plus que ça à faire, mais non, on a des efforts à faire. Mais tout part de la foi. Quand on voit la liste de... Ça fait comme une chaîne, en fait. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. à la vertu la connaissance, à la connaissance autre chose, et tout tient comme une chaîne. Et s'il manque le premier maillon, ça sert à rien de faire une chaîne. Je pourrais l'accrocher nulle part, je pourrais rien en faire. Et c'est là où c'est important de reconnaître ce que Dieu il a déjà fait, ce qui est déjà fait spirituellement, et qu'après, il faut ajouter le reste, et c'est une discipline, c'est une nouvelle vie à travailler, on va dire. Mais il y a quelque chose qui a déjà été fait, et il y a tout qui a déjà été fait spirituellement. Le verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Non. Alors, c'est un des préférés de José, c'est pour ça que j'attends de son côté. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. C'est pas si quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas les choses anciennes vont passer, toutes choses vont devenir nouvelles. On a toujours tendance à rajouter un peu le facteur temps pour se laisser de la marge et pour dire, limite j'ai le temps de prendre des bonnes habitudes et puis c'est le Seigneur qui agit quand même. Mais non, il n'y a pas de facteur temps à avoir. Le Seigneur, des fois, il prend son temps, c'est vrai, pour agir, et des fois, il nous change radicalement et très rapidement. Et si on met toujours le facteur temps, on le gêne dans ses mouvements et on le limite dans ses possibilités. Et aux Éphésiens aussi, on pourrait lire toute la Bible, en fait, tout Nouveau Testament qui décrit les chrétiens. Et le début de la lettre aux Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le premier verset dit « Paul aux saints qui sont à Éphèse ». Il leur a envoyé une lettre à Hasbrouck, il leur a dit de la même façon « aux saints qui sont à Hasbrouck ». Aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux d'Hasbrouck sont des fidèles en Jésus-Christ. Le verset 2 nous dit qu'on a la grâce et la paix. Il ne s'agit pas de les rechercher, on les a déjà. Il faut simplement rester dans ces choses et rester dans ce que Dieu a pourvu pour nous. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il nous a tout donné en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Ce qui fait que si vous faites des choses qui vont pas, si vous ratez votre coup, si vous vous éloignez du chemin, ça compte pas. Il avait tout fait avant que vous fassiez ça. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Ça, je crois que c'est un point qui est important aussi, c'est pour célébrer la gloire, sa gloire à lui. Et si je parle de tout ça, c'est forcément pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur, qu'on puisse lui laisser toute la place et qu'il puisse prendre simplement toute la gloire qui lui est due. Et c'est uniquement ça le but de notre vie, c'est célébrer sa gloire. Et pourquoi est-ce qu'il a créé des hommes ? Pour son plaisir, pour sa gloire. Et on fait que revenir à l'état qu'il avait prévu au départ. Il voulait simplement créer quelque chose, dans un sens, se faire plaisir, et puis tirer de la gloire de ce qu'il fait. Alors c'est pas comme nous, on aura envie de dire, moi je vais faire quelque chose, et puis je vais en tirer de la gloire, parce que là c'est pas de la gloire, c'est de l'orgueil bien souvent. Mais Dieu, la gloire, c'est lui. Donc il a pas besoin que, limite, qu'on lui rende gloire, qu'on le glorifie. Il est la gloire. Il n'a rien besoin, il n'y a rien qui peut diminuer sa gloire. Mais ce qu'il aime, c'est qu'on reconnaisse sa gloire. Et là, on a un rôle à jouer, que quand les gens nous voient, quand le Seigneur nous voit lui-même, il puisse dire, je reconnais qu'il y a ma gloire dans mon enfant, et que les gens autour puissent voir, il y a la gloire de Dieu dans cette personne-là. Et si on part déjà avec une idée en tête de j'ai pas grand chose dans la vie, je suis pauvre, je suis persécuté, je suis tout ce qu'on avait vu dans la première façon de voir les choses tout à l'heure. On part déjà sur un pied où Dieu, il a pas grande gloire à avoir. Alors si on part sur le fait qu'il a tout déjà, il nous a déjà tout donné, on le glorifie déjà et on reconnaît ce qu'il a fait. Alors que quand on ne reconnaît pas ce qu'il a fait, quand on lui retire toutes ces choses qu'il a fait pour nous, eh ben on lui retire sa gloire et on le fait menteur dans un sens. Lui nous dit « je t'ai déjà donné toutes choses », il nous le dit X fois dans sa parole, et puis nous on dit « ouais, mais ouais, spirituellement, mais en vrai, bon, ben, ouais, ça change pas grand-chose, je suis toujours esclave ». Et là, quand on fait ça, on le rend menteur et on prive de sa gloire. Si je dis ça aussi, c'est parce que je pense que quand on est chrétien, il faut qu'on garde une barre haute, très haute, parce que c'est celle que Dieu a placée, simplement. Parce que c'est même pas simplement un objectif, c'est que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas à nous mettre les objectifs, c'est Dieu qui nous les fixe lui-même. Mais Jésus, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et si on se contente de petites choses, de dire, ben, sur 2 ans, le Seigneur, il m'a changé un petit peu dans ce domaine-là quand même, bon, c'est pas mal, ça avance tout doucement et faut laisser le temps aux choses, quoi. C'est une vie en abondance, ça, avec le Seigneur. Quand on regarde le point final de ce qu'on doit être avec le Seigneur, les hommes parfaits, les hommes et femmes parfaits qu'on doit être dans le Seigneur, ben, il y a du travail, il y a du chemin. Et du coup, autant aller vite, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on prend notre temps, on risque de jamais y arriver. Et en comprenant, et c'est vraiment valable pour moi aussi, ça m'a travaillé bien plus peut-être même que vous, parce que j'ai dû le lire et l'étudier. Et quand j'ai lu ce paragraphe, je me suis dit, mais on est tellement, tellement bas dans ce qu'on se propose de faire dans notre vie. Et si on accepte déjà tout ce que le Seigneur y a fait, ben c'est tout un travail de fait. C'est toute une partie du travail qui est déjà fait et on part de plus loin et il y a moins à faire. Ça nous soulage un peu le travail de comprendre ces choses. Et souvent, on se raccroche, quand on pense à cette première façon de voir les choses, on se raccroche à ce qu'on voit, à ce qui est physique et à ce qu'on peut faire nous. Et on a l'impression que de ce qu'on fait nous, ça change notre valeur, ça change ce que le Seigneur il veut faire de nous. Et en vrai, tout ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est complètement indépendant de nous. Ça dépend de nous, parce que si on dit non, ben il le fera pas, c'est sûr. Si on dit oui, peut-être, il le fera, mais avec plus de mal, parce qu'il faudra nous forcer, faudra nous travailler, ça va être dur. Mais si on y va volontairement, alors le Seigneur, il a tout un tas de choses à faire et ça dépend plus de nous. Lui, il y a peut-être, ça se trouve, une liste de choses à faire. Il dit, bon, alors Michael, il faut que j'arrive à l'amener à ce point-là parce qu'il y a encore ça, 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 ça et ça à faire. Et au plus je traîne, au moins il risque d'y avoir de temps pour faire ce que le Seigneur, il a pour moi. Et si souvent on se dit que c'est bête comme comportement, mais c'est vraiment notre façon et ma façon de voir les choses, j'ai fait quelque chose qui va pas, ben, je demande pardon à Dieu, c'est tout à fait normal, mais on a l'impression dans notre tête que Dieu, il nous aime moins. Alors, je suis pas encore papa, ça va venir, mais est-ce que quand on est parent, on aime moins les enfants quand ils font des bêtises? Rassurez-moi. Non, c'est unanime. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, il nous aimerait moins quand on fait des bêtises? C'est exactement la même chose. Et pourtant, dans nos têtes, on fait comme si c'était ça. On se dit, ben Dieu, il me punit. Effectivement, Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais nous, on reste vraiment que sur le côté négatif. Et Dieu, il nous aime tout autant. Il a tout autant de projets pour nous quand on rate quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas lui demander pardon, qu'il faut pas redémarrer, qu'il faut pas... Mais c'est pas pour ça qu'il faut à chaque fois croire que quand on fait une bêtise, quand on pêche, on est redevenu pêcheur et tout est à refaire. Le Seigneur, il continue son œuvre et puis pour lui, ben, c'est l'enfant, il a fait une bêtise, il est corrigé et puis après on repart, voilà, on n'en reparle pas pendant des années, j'imagine. Il y a des choses, des fois, les parents s'en souviennent longtemps quand même, hein. Et ça rejoint un peu un verset dans Romains. Romains 5, verset 6, c'est aussi que des passages très connus, mais on les lit, on en apprend toujours en les relisant. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. S'il a fait toutes ces choses, tout ce qu'il a fait, il l'a fait quand on était pécheur, quand on était loin de lui, quand on était ennemi avec lui. Alors maintenant qu'on est rapproché, qu'on est réconcilié avec lui, à plus forte raison, d'autant plus, on a tout un tas de choses qui sont prêtes pour nous et il est encore plus favorable à nous. Il a déjà fait ces choses quand on était pécheur, maintenant qu'on ne l'est plus, il nous accueille à bras ouverts et puis il veut nous faire participer à beaucoup de choses. Alors j'ai une autre histoire, j'aime beaucoup les histoires. C'est un enfant qui venait d'être adopté et qui s'est retrouvé dans un immense château. Son nouveau père lui a murmuré à l'oreille « Maintenant, il est à toi et tu as parfaitement le droit d'être ici. J'ai fait de toi le co-héritier de mon fils unique bien-aimé. Il a payé le prix qui t'a affranchi de ton ancien maître cruel qui te condamnait. » J'ai acheté ce château pour toi parce que je t'aime. » Le jeune garçon avait beaucoup de peine à croire que ce cadeau incroyable lui était destiné. « Ça semble trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter ?» se demanda-t-il. « Toute ma vie, j'ai été l'esclave des attentes des autres, sans parvenir à les satisfaire. Qu'ai-je fait pour mériter un tel privilège ?» Malgré tout, le jeune garçon était très reconnaissant et il commença à explorer toutes les pièces de son nouveau domaine. Il essaya d'utiliser certains des outils et des appareils. Beaucoup d'autres enfants vivaient également dans le château, et il commença à établir des relations avec ses nouveaux frères et sœurs. Il appréciait tout particulièrement le buffet à volonté. Puis, c'est arrivé. Alors qu'il s'éloignait du buffet, il renversa malencontreusement plusieurs verres et une carafe de Grand Prix qui tomba et se brisa en miettes. Alors il se mit à penser. « Espèce de maladroit, stupide! Mais tu vas pas t'en tirer comme ça! D'ailleurs, de quel droit est-ce que tu es ici? Tu ferais bien de te cacher avant qu'on découvre ce que tu viens de faire, parce qu'on va sûrement te mettre à la porte. » Au début, il était émerveillé de se retrouver dans ce grand château avec une nouvelle famille et un père affectueux. Mais maintenant, il était tout désorienté. Les vieilles bandes enregistrées dans sa petite enfance recommençaient à défiler dans son cerveau. Il était submergé par la culpabilité et la honte. Des pensées d'autocondamnation l'assaillaient. « Qui crois-tu être ? Une sorte de privilégié ? Tu n'as plus rien à faire ici. Ta place est au sous-sol. Ton ancien maître avait bien raison à ton sujet. Tu n'as rien à faire ici parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Et maintenant, tu as encore échoué. » L'esprit rempli de telles pensées, l'enfant est descendu au sous-sol. La cave était triste, sombre et désespérante. La seule lumière qui l'éclairait provenait de la porte ouverte tout en haut de l'escalier par lequel il était descendu. Il entendait le père l'appeler, mais il avait trop honte pour répondre. Le garçon fut surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul au sous-sol. En haut, les gens se parlaient et travaillaient ensemble sur des projets intéressants et valables. Mais au sous-sol, personne ne parlait. Tout le monde avait trop honte. Aucun de ceux qui étaient là n'appréciait d'y être. Mais tous pensaient que c'était pourtant leur place. Aucun d'eux ne voyait comment il pourrait marcher à nouveau en pleine lumière, parce qu'alors les autres verraient ses imperfections. De temps en temps, l'un des nouveaux frères et sœurs qui étaient restés en haut ouvrait la porte et encourageait ceux du sous-sol à remonter. Et parfois même, il annonçait qu'on avait préparé une place pour tous ceux qui voulaient remonter. Par contre, d'autres frères et sœurs étaient plutôt décourageants. Ils réprimandaient tous ceux qui étaient au sous-sol, ce qui ne faisait qu'aggraver leur situation. Tous n'avaient pas la même raison de rester au sous-sol. Certains, comme le jeune garçon, pensaient qu'ils méritaient d'y être, qu'on leur avait donné leur chance, mais qu'ils n'avaient pas su répondre aux attentes de leur nouveau père. D'autres se croyaient incapables de monter l'escalier. La tâche leur semblait impossible. Même s'ils rassemblaient leur courage pour faire une tentative, l'escalier des attentes ne faisait que s'allonger et devenir de plus en plus raide. Ils ne pouvaient pas arriver en haut par leurs propres forces et leurs propres moyens. Et ils étaient trop fiers pour demander de l'aide. D'autres, parmi les habitants du sous-sol, rassemblaient leur courage un bref instant pour remonter l'escalier. Mais ils n'y restaient jamais assez longtemps pour résoudre les conflits et apprendre la vérité qui les rendrait capables de persévérer. Alors, ils retournaient au sous-sol. Et ça, encore une fois, c'est frappant de comparer une vie de chrétien avec ça. Et je l'ai rapproché d'un verset de Galates, dans Galates 3. L'église de Galates, en tout cas les gens qui y étaient, ils avaient une fâcheuse tendance, c'est de retourner à la loi. Galates 3. « Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Et l'encouragement que je veux vous donner ce matin, c'est de continuer par la foi. Toutes les choses qu'on voit dans la parole, il faut se les appliquer et par la foi. Pas regarder à ce qu'on peut faire, pas regarder aux bonnes habitudes qu'on peut prendre, aux bonnes choses qu'on peut faire, parce que ça change pas grand-chose, ça peut être un signe de ce qui est en nous, mais les signes, c'est trompeur. Et ce que Dieu, il a fait, c'est écrit dans la parole, et la parole, elle trompe pas. Et je voulais juste finir avec une petite comparaison de quand on devient chrétien et du chien qui habite en dessous de chez moi. C'est farfelu, mais en dessous, on a un chien qui s'appelle Pitou. Très gentil, mais pas tout le temps. C'est un petit bâtard, enfin il ressemble à aucun chien vraiment, mais il est très sympathique. Et en fait, ce chien, quand on est arrivé, il avait tout le temps peur. Tout le temps. J'arrivais jamais à l'approcher. Et le jour où j'ai réussi à le caresser, parce que j'ai un truc, je sais pas, je colle au chien, moi. Et le jour où j'ai réussi à le caresser, vraiment, j'étais épaté. Je suis remonté à l'appartement et je fais à Maï, j'ai caressé Pitou. Oh, la classe. Tellement il était terrible à approcher, tellement il n'y avait pas moyen. Et je me demandais toujours quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on était là, il reculait. Et quand j'ai discuté avec la concierge, puis Maïm l'a dit aussi, en fait, c'était un chien battu. C'est pour ça qu'il avait peur. Ça paraît logique. Mais pourtant, ce chien, il n'était plus battu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé d'un seul coup? Il avait été adopté dans une nouvelle famille. Et puis il était très bien, là il est très bien, il est très bien soigné et tout ça, il peut balader dans le collège, il a de la place, il a une amie, Rénie, qui ressemble au chien de Janet, et il est extrêmement bien là où il est, dans sa nouvelle famille adoptive. Mais, pendant très longtemps, il a gardé les réflexes qu'il avait avant. Et là, tout doucement, on arrive à là, maintenant j'arrive, je peux le caresser régulièrement, il se laisse approcher, mais ça dépend des conditions et... Des fois, il faut l'acculer dans un coin, et là, il n'a pas le choix, et bon, il se laisse caresser, parce que de toute façon, il est coincé. Mais globalement, il change tout doucement. Ça change dans sa façon d'être. Il va même des fois se rapprocher de nous pour se faire caresser. Ça, c'est exceptionnel aussi, venant de Pitou. Mais en fait, il est comme nous, ce chien. Il est comme moi, si ça vous insulte que je vous traite de chien. Il est comme moi, ce chien. J'ai été adopté dans une nouvelle famille. Dans une famille où je suis très, 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 très bien. Et c'est pas juste vous, c'est le Seigneur qui est mon nouveau père, le Seigneur qui change ma vie, qui est bon envers moi, qui a des bonnes choses pour moi, qui a préparé un château, comme on dit dans cette histoire. Et pourtant, il reste des fois Il y a des choses où j'ai peur, des choses où j'ose pas, des comportements qui sont encore à changer. Il y a encore du travail à faire. Il faut joindre à la foi la vertu, la connaissance, l'amour. Mais on ne peut pas demander à un enfant battu qui est adopté par une nouvelle famille de changer du jour au lendemain. Il a appris des choses, il a appris à vivre et il faudra des années peut-être pour le changer, pour lui donner une nouvelle façon de vivre. Et tout ça, c'est une discipline qu'il faut avoir. Et le Seigneur, il veut avoir cette discipline avec nous. Il nous a adoptés, il nous a changé de famille. Et maintenant, il veut continuer à travailler. Mais, qu'on n'oublie pas tout ce qui a été dit avant, il a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Et tout est déjà fait. On est libre, on est dans une nouvelle famille. C'est encourageant pour nous, mais il faut vraiment persévérer et comme on dit toujours, je suis nul, je suis ceci, je suis cela, ça, ces choses-là, il faut les bannir complètement. Le Seigneur, il a jamais, jamais dit ça à ses enfants. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver de pécher, mais on n'est plus pécheurs. On est des saints qui, parfois, péchons. Mais on est des saints. Et vraiment, je vous encourage à relire tout le Nouveau Testament, il est gorgé d'expressions qui disent on est sanctifié, on est glorifié, on est plein de bonnes choses que le Seigneur il a préparées pour nous, on est riche, mais il faut se les approprier et il faut croire qu'on les a déjà. Si vous croyez que c'est pour après, ben, il n'y a plus rien à faire et c'est triste. Mais vraiment, il y a une vie abondante que le Seigneur y a préparée pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu as tellement, tellement, tellement de bonnes choses pour nous et on est si dur d'entendement, on voit tellement avec nos yeux, on voit ce qui est physique, on voit ce qu'on peut voir nous-mêmes et Seigneur, on te prie de continuer de travailler nos cœurs. Seigneur, de nous révéler tout ce que tu as déjà fait pour nous. Quand tu es mort sur la croix, tu as dit que tout était accompli et Seigneur, c'était pas juste ce que tu faisais là, ce jour-là, c'était tout était accompli dans notre vie aussi. Toute l'œuvre du salut est accomplie et Seigneur, je te remercie de ce que tu as tout fait, de ce que c'était impossible à faire pour nous, mais toi tu l'as fait pour nous et on est reconnaissant, on veut te rendre la gloire aussi qui t'est due. Seigneur, aide des enfants qui te procurent de la joie, qui te procurent de la gloire. Seigneur, on veut continuer à grandir dans ces choses et prendre les bonnes habitudes, prendre une vie de disciple, une vie de serviteur. Seigneur, une vie qui est remplie de tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci Seigneur pour ton Église aussi, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, par-dessus tout, même si on a des défauts, même s'il y a des choses à changer. Mais tu nous aimes et on est reconnaissant pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Amen. Alors, je termine avec les annonces, mais je crois qu'il n'y a pas d'annonce en vrai. C'est mardi, l'étude biblique à la salle. D'accord, donc c'est Haroun qui sera là mardi. Et vendredi soir, je ne sais pas si c'est réunion d'hommes ou réunion de prière. Réunion de prière, donc ici à la salle aussi à 20h. Et dimanche prochain, le culte. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche.